Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 111e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h avec notre petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquiel.
Ça va bien?
Écoute, impeccable. Super. Allez, génial. Super. On a un planning un peu, mais ça va être bien. Ça va être bien, les gars. Vous barrez pas. Hein. Non. Non, parce que je regardais la conduite tout à l'heure, je me suis dit, oui, il faut qu'on en rajoute, mais c'est bien.
Pas forcément, non. On est un peu light, mais en même temps, c'est une sélection, donc voilà.
Voilà. Puis vous inquiétez pas. On sait rendre tout intéressant, bien sûr.
Allez, bah, du coup, on va y aller tout de suite avec la sélection gaming et un vieux de la vieille qui refait surface, c'est Stranglehold.
Ouais, quand on vous dit que la sélection de la semaine, que des nouveautés, hein. Donc là, on parle d'un jeu dont le test est sorti le 14 septembre 2007 sur Gamekult. Bon, ouais. Voilà.
Et je me posais la question tout à l'heure, je me demande si c'est pas moi qui avais fait le test pour Joystick, mais je ne voudrais pas m'attribuer la propriété, c'est pas le cas, mais en tout cas, j'y ai joué à l'époque.
T'y as joué, mais tu ne t'en rappelles pas, peut-être, tu vois.
Non, je sais pas pourquoi. Peut-être que mon cerveau a fait l'impasse, je ne sais pas. Que c'était douloureux.
Est-ce qu'il y avait des colombes qui s'envolaient ou pas? Parce que je rappelle que c'est...
Il y avait du bullet time, en tout cas, ça, il y en avait plein.
Ah bah oui. Donc c'était un jeu John Woo, les enfants, rappelez-vous. Mmh. Pourquoi on en parle cette semaine tout bêtement? Parce qu'il ressort sur GOG, comment on dit d'ailleurs?
GOG. Ouais.
Et ben disons GOG. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait le jeu avait entièrement disparu des plateformes de téléchargement, etc. Puisque le truc c'est un bordel monstre, c'était au catalogue Midway, édité par Warner Bros Interactive, et évidemment. Quand il y a eu le rachat en juillet 2009, c'est devenu un problème. Plus personne s'est occupé de rien. Il était devenu incompatible avec Windows. Bref, le truc, il était mort de chez mort. Et tous ceux qui aiment s'occuper de, comment dirais-je, gérer l'histoire du jeu vidéo est un petit peu triste. Sur qui tu pouvais faire tourner le truc en émulation, mais fallait vraiment aimer le jeu, donc on va quand même pas s'enflammer. Mais là, voilà, il a été dépoussiéré par GOG, qui fait vraiment du bon taf de ce côté-là, et il est dispo pour 10€ balles. Si vous avez raté ce monument du bullet time et qui est un petit cousin de Max Payne quelque part,
hein. Ouais, tout à fait.
Vous pouvez y aller, il y a un Choyun Fat modélisé, mais alors attention, hein, modélisé 2007, hein, donc
ça pique. Bon,
voilà, c'est pas le jeu n'est pas moderne, hein. Il y a des bandes annonces, je vous ai linké le papier de Gamekult, vous irez voir la gueule que ça a, et moi je voulais juste dire que c'était dispo parce que je trouve que c'est intéressant quand des boîtes comme ça ne se contentent pas de récupérer des trucs qui existent déjà mais font l'effort de remettre à jour les titres pour pouvoir évidemment faire un bénéfice derrière, ne soyons pas stupides, innocents, mais en tout cas ça participe au maintien du patrimoine du jeu vidéo et c'est hyper important. Ouais. C'est pour ça que j'avais dit du bien de Game Club sur iOS où les mecs se font chier à faire du rétro-engineering pour aller chercher des vieux jeux iOS qui sont absolument plus compatibles avec les devices modernes ou les versions d'iOS modernes et qui font en sorte que ça tourne, même si pour ça ils doivent pratiquement refaire le jeu de A à Z. Donc voilà, c'est une petite j'en reparle vite fait, mais Game Club, allez regarder, ça peut être intéressant si vous avez la nostalgie de vieux jeux portables.
Allez, on continue dans le gaming avec Apex Legends, du nouveau encore de ce côté-là.
Ouais, tiens, ça va être le retour de notre petit jingle Apex Legends, parce qu'il se passe des choses en ce moment, tu vois, PUBG, on l'a arrangé en ce moment, mais Apex Legends continue d'évoluer, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait n'importe quoi avec la progression des joueurs, tu sais qu'à chaque partie, tu gagnes des points d'expérience, qui ne servaient plus à rien depuis longtemps, parce qu'en fait, c'était capé au level 100, et autant dire que si tu joues depuis la sortie, tu es level 100 depuis à peu près des mois et des mois, donc ils ont tout remis à plat et ils vont faire un espèce de truc rétroactif pour faire gagner des caisses, ils n'ont pas le droit dans tous les pays, mais en tout cas déloquer des choses qui font plaisir aux joueurs réguliers. Et maintenant, le level cap passe à 500. Donc du coup, vous allez avoir plein d'items que vous allez pouvoir débloquer de manière gratuite, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'était plus possible en fait. Une fois que tu étais au level 100, tu ne gagnais plus rien. Ils se sont rendu compte que pour l'engagement des joueurs, c'était pas une bonne idée. Incroyable, quelle surprise, dis donc.
Ça alors.
Il y a des gens qui font des études, hein, quand même, hein, pour arriver à ce level-là. Moi, ça me fascine tout le temps, ce genre d'erreur de débutant, quoi. Donc, bon, bref, le truc est corrigé. On verra ce que ça donne, mais en gros, par exemple, pour vous donner un niveau de motivation pour vous, entre le niveau 2 et le niveau 20, vous gagnez un pack Apex par niveau. Entre 22 et 300, ça sera un pack tous les deux niveaux. Donc, tu vois, ça motive à aller faire des parties. Et par contre, entre le niveau 305 et 500, ça sera un tous les 5 niveaux. Ça monte relativement vite quand on joue pas mal, donc c'est pas non plus la mort, mais c'est surtout bah, avant on avait absolument rien et enfin tu jouais parce que le jeu était bien, donc c'était déjà un pas mal, tu vois. Mais là ils se sont rendu compte que si vous voulez perdurer contre la concurrence qui se réveille, bah, il était temps de faire quelque chose. Et surtout rappelez-vous que si vous n'aimez pas les packs et les trucs gratuits mais que vous ne pouvez pas choisir, vous pouvez décider de vous mettre en Belgique sur votre compte sur votre compte Origin, car la Belgique a interdit les loot box, je le rappelle. Et du coup, vous récupérez directement du matériel de crafting pour bah, faire à la place des packs, donc, et pour fabriquer ce que vous voulez à la place. Ça marche toujours, hein, c'est toujours d'actualité. Je le fais
sur mon compte depuis le départ. De se localiser en Belgique.
Ouais, j'y vérifie rien. Merci okay. Origin, merci Electronic Arts. bon, on ne dit pas trop fort, hein, le répétez pas. Répétez-le partout.
Ça reste entre nous.
Et voilà, on l'a pas dit. Et du coup, c'est quand même vachement, vachement pratique. Moi, j'ai de quoi faire plusieurs skins épiques que je peux choisir, sachant que le design des skins dans ce jeu, comment dirais-je, et pas au goût de tout le monde, enfin en tout cas j'en trouve pas beaucoup de vraiment pertinentes et intéressantes, bah c'est pas mal de pouvoir choisir. Donc vive la Belgique, merci Fasquille.
Bah écoute, de rien, ça me fait plaisir. Et comme chaque année, on vous fait notre petit PSC, message d'intérêt public concernant les fameux soldes chez Steam.
N'y allez pas, fermez Steam.
Bah Steam et les autres, car ouais, tout le monde vrai, est en solde, les enfants. Car je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est Black Friday. Alors c'est au cas où vous auriez pas compris, parce que
ça fait pas deux semaines qu'on nous en parle.
C'est ça. Donc aux États-Unis, c'est Black Friday dans les magasins, c'est une journée. Sauf que sur Internet, les mecs ont pas bien compris le concept, donc on est en Black Friday depuis lundi dernier, sachant que lundi prochain c'est Cyber Monday, donc on se tape 15 jours de promo avec de la pub partout. Je devais faire un rant là-dessus, mais bah finalement j'en parle maintenant. Tant pis, on en parlera pas en fin d'émission. Mais autant que sur les aspirateurs Dyson que sur, je dis Dyson parce que c'est les trucs très chers que tout le monde attend d'avoir en promo pour se jeter dessus, si tu veux. Mais que les soldes Steam, c'est pareil quoi. Enfin Steam, GOG, quoi, ce que vous voulez, c'est vachement bien, c'est cool. Il y a plein de jeux pas chers. Mais moi, j'ai juste un truc à vous dire. Rappelez-vous de votre backlog, les mecs.
Et oui. Moi, c'est ce que je fais, en fait. À chaque fois que je passe sur le store Steam, je vais d'abord voir dans ma bibliothèque. Je fais, ah oui, 800 jeux quand même. J'en ai pas fini 10. Donc, tout va bien.
Voilà. Tu as le temps d'arriver à la retraite. Donc, il y a peut-être des trucs que vous surveillez depuis 1000 ans. Vous avez wishlisté. Vous dites, ah là là, 65%, j'y vais maintenant. Et voilà, moi je l'ai fait, hein. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai toujours pas lancé le jeu par exemple, hein. Je cite pas de titres, comme ça je vous laisse un peu dans l'expectative, mais il y a des titres que j'ai achetés en promo l'année dernière en me disant « Ah, enfin !» Et donc un an plus tard, je les ai installés et je les ai pas lancés. Je les ai installés, hein, parce que j'ai de la place, j'aime perdre de la place sur mes disques durs, je n'y ai pas joué du tout. Donc voilà, c'est hyper bien, c'est cool, vive les promos, mais soyez... j'allais dire éco-responsable, mais c'est du digital les trois quarts du temps. Mais voilà, bon, c'est très bien comment ça va se terminer. Ouais, c'est ça, ludico-responsable. On invente des trucs chelous. Mais ouais, je voulais juste vous prévenir que vous savez très bien que vous n'aurez pas le temps de les faire, sauf si ce sont des grands jeux. Mais quand vous me voyez, par exemple, parler d'Apex Legends, quand je vois le nombre d'heures que je passe sur quelques jeux, j'ai mal sur bah, pour tous les autres. Tu vois. Il faut vraiment que je me force, par exemple, pour aller faire des jeux solo, les terminer, etc. Même quand c'est des œuvres d'art, des trucs, tu vois, il y a 20% sur Disco Elysium, achetez-le, il est génial. Mais je sais très bien que j'ai des potes qui sont en ce moment sur WoW Classic avec leur guild, les mecs ils prendront jamais les heures nécessaires pour le faire. Donc voilà, soyez raisonnables. Voilà,
soyez prudents. Là, on passe du côté des apps avec des nouvelles du côté d'Ubuntu. On parle pas souvent de Linux dans Torréfaction, tiens.
Bah non, on parle pas trop de Linux parce que bah ça manque un petit peu d'applications, puis on manque d'expertise aussi, si c'est vrai. Donc on manque un peu de, on n'est pas assez barbu pour parler de Linux tout le temps de manière intéressante. Enfin voilà, on n'est pas très pertinent sur le sujet, mais là j'ai vu un papier de Ars Technica que je vous link à propos d'Ubuntu 19.10 qui vient de sortir, et apparemment bah ils sont sous le charme de la vitesse du bestiau. Donc du coup ça a un petit peu titillé ma curiosité et je l'ai installé. installé dans une VM, et j'avoue que le truc est assez sexy. Après, bon, on a les mêmes problématiques que d'habitude avec Linux sur desktop, hein, c'est quelles applications, pourquoi faire, il y a des trucs qui manquent de manière permanente et c'est très pénible, mais en tout cas, voilà, ça tourne, ça fait partie des distributions qui sont soi-disant grand public, donc les gens sont là, genre, tu as tout... parce que le problème de Linux aussi, c'est que t'as les gardes-chapelles, t'as les mecs qui vont dire, non, moi j'utilise que Solus, non, moi j'utilise que ça, moi je... Bon, les gars, on s'en fout, en fait, voilà, c'est Ubuntu, c'est les mecs qui participent le plus à la démocratisation du Linux sur desktop, et c'est vraiment une bonne nouvelle quand ça fait des progrès. Là, c'est dû au travail qu'ils ont fait sur GNOME et sur la façon dont il est optimisé, et là, le résultat est assez sexy, je dois admettre que ça tourne très bien. Alors, je fais tourner ça sur une grosse VM qui va bien avec pas mal de mémoire et pas mal de pros virtuels, et j'ai malgré tout une fraction de la puissance de mon Mac si je l'avais installé en natif, et du coup, je suis assez impressionné. J'imagine que les mecs qui font tourner ça sur une bécane dédiée, bah, ils vont pas être déçus du tout. A priori, ça tourne même sur des vieux bousins, parce que c'est tellement bien optimisé que tu peux le mettre sur des vieilles bécanes, et contrairement à Ubuntu historiquement, qui ramait, et pour ça qu'on utilisait des Linux Mint et compagnie, là, ça fait vraiment bien le boulot. Je vous laisse aller potasser le papier d'Ars Technica, et je voulais juste vous dire que voilà, c'était dispo et que c'était une bonne surprise.
Voilà, et comme tu disais dans la conduite, on attend vos insultes sur le forum. Allez, on passe du côté de la culture. Il y a deux semaines, on avait fait un gros round-up série télé. On va parler musique cette fois-ci, avec la sortie du nouvel album de DJ Shadow, Pathetic Age, qu'il est très bien. Sixième album studio du Californien, donc DJ Shadow, alias de Josh Davis, sorti le 15 novembre dernier. C'est un album qui, d'après Shadow lui-même, malgré le titre, est plein d'espoir et vibrant. Et perso,
le titre est fabuleux quand même.
Oui, c'est vrai. C'est très dans... J'allais dire dans l'air du temps, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment ça. Et donc, perso, moi, je suis méga fan. Je l'ai déjà écouté plusieurs fois depuis sa sortie. Le premier single Rocket Fuel avec De La Soul m'avait déjà bien fait remuer le popotin, et le reste est à l'avenant. Alors, faut savoir que c'est un album qui est disponible en deux CD. Le premier CD est baptisé Instrumental Suite. Il est composé, comme son nom l'indique, d'instrumentaux. Et le deuxième, c'est Vocal Suite. Alors, ce sont pas les mêmes morceaux, mais ce sont d'autres morceaux sur lesquels on retrouve pour le coup de nombreux guests comme De La Soul, le légendaire Nas, Ghostface Killah ou encore Run The Jewels. Voilà. Il y a pas grand chose d'autre à dire que du beau linge. Effectivement, la prod est vraiment top. Et puis, bah, plutôt que d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait d'un morceau qui, moi, m'a bien tapé dans les oreilles. C'est Rain of Snow avec, au featuring, Inspector Deck, Ghostface Killah et Raekwon.
Rain on snow.
Aye, and that's your highness.
Rain on snow.
DJ Shadow was good.
Makes it melt.
You all ready? Yo, white walker style now, winter is coming. We living trapped in the storm like fish in a bucket. My vision is blurry, 12 below, zip in a hurry. See the dream is blue skies, then you hit with the flurry. We're as hot shells and cold hearts who love pain. Let it rain just to wash away the blood stains. Money, money, sex, murder, that's the drug game. And every day the same song like nothing changed. But I came with the shovel, whether it's to chop up snow or if I gotta throw dirt on some trouble. I'm working a double, I triple the price. Never slipping even on 6 inches of ice. Stay equipped when the temperature dip. Hold your weight, cause the cold's known to leave folks frozen in place. Stay warm, sipping handy till the pain is gone. And now I can see clearly now the rain is gone. Rain is gone, rain is gone.
Voilà, ça tabasse bien, comme on dit. Extrait donc de l'album Our Pathetic Age, c'était le morceau Rain on Snow de DJ Shadow. Tu l'as écouté, toi, l'album, oui, donc?
Ouais, je l'ai écouté en boucle quand tu me l'as balancé, et il est dispo sur toutes les bonnes crèmeries de streaming, et franchement, c'est une très bonne surprise. J'avais pas écouté le monsieur depuis un bon moment, et je suis hyper content d'écouter un peu autre chose que de la K-pop en ce moment, hein. je vais pas te le cacher.
Allez, on continue dans la musique avec des news du côté de Prince, qui, malgré le fait qu'il soit mort, continue de sortir des trucs.
C'est génial.
En l'occurrence, c'est une réédition, hein. On parle donc de l'album 1999, qui sort donc en édition Super Deluxe et Deluxe, aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, vendredi. C'est la réédition donc d'un album majeur de Prince 1999, qui était son cinquième, sorti en 1982. Et il va sortir donc en trois éditions. Une édition simple CD remasterisée, avec donc l'album original revu et corrigé avec les standards sons actuels. Une édition Deluxe en deux CD, avec en plus un CD de bonus qui comprend des versions single, maxi et des phases B, et puis enfin en version super deluxe dans un coffret 5 CD plus un DVD, avec donc 2 CD supplémentaires par rapport à la version Deluxe où on a ce qu'ils appellent The Vault. En gros, c'est des enregistrements studio inédits de cette époque, donc autour de 1982, et un CD live enregistré pendant la tournée 1999 le 30 novembre 1982 à Détroit. Et sur le DVD, on a donc un autre concert. Il faut savoir que Prince était quand même un bourreau de travail, donc le même jour, le 30 novembre 1982, il a fait deux concerts à Détroit. Il y avait ce qu'on appelle un early show et un late show. Le CD audio, c'est le late show, et le DVD lui propose en revanche le early show. Donc c'est pas tout à fait la même tracklist, c'est pas tout à fait dans le même ordre. Donc voilà, pour les collectionneurs de Prince, ça vaut peut-être le détour, histoire d'avoir les deux versions. Donc ce sont les deux versions du même concert qui a été enregistré donc le 30 novembre 1982 à Détroit. La Super Deluxe en boîte plutôt sexy, je trouve. Elle est proposée donc à 70€ sur le site officiel et un peu moins cher, même beaucoup moins cher chez Amazon, même si j'aime pas faire de la pub pour Amazon, elle est à 50$. Donc si vous avez des fans de Prince dans votre entourage, ça fera un parfait cadeau de Noël. Et je vous propose qu'on écoute aussi un extrait, puisque bon, on a le temps, là on va se le permettre, un petit extrait donc de la version live de 1999. Donc enregistré le 30 novembre 1982 à Détroit, et j'en profite pour faire un petit plug perso, puisque dans l'épisode de ce mois-ci du Discographe, tu sais, c'est mon podcast où je parle de
d'artistes. Tu ferais pas de la pub pour tes podcasts perso?
Je me le permets, je parle de The Time en fait, The Time qui est donc une création de Prince en fait, et voilà, c'est un groupe de 7 personnes, et où au final sur les 3 premiers albums, bah, c'était Prince qui composait, qui produisait, qui jouait de tous les instruments. Il y avait juste Maurice Day qui chantait en plus, mais sinon les autres ils se tournaient un peu les pouces pendant ce temps-là. Donc voilà, si vous êtes fan de Prince et que vous ne connaissiez pas The Time,
ça défonce.
Allez jeter une oreille, c'est vraiment très très bien. Je ne peux que vous recommander leur discographie. Le Discographe, donc épisode 11 consacré à The Time, sort normalement aujourd'hui à 10h du matin sur l'URL discographe.fastkill.com. On reste dans la culture, enfin ça se discute, on va dire. Fallait que je la fasse.
Qu'on va partir. Surtout que là, je suis gentil avec toi, on commence tranquillement. Vas-y, on va partir
du côté. Voilà, on va partir du côté. Ça, il fallait bien que ça arrive un jour. On va partir du côté de la Corée, c'est ça?
Eh oui. Oh, je remonte mes manches, ça me fait tellement plaisir. Ah, mais comme je suis un mec sympa. On va pas parler K-pop en vrai. C'est détendez-vous les gars. On parle de musique qui vient de Corée, mais on est très très loin de la K-pop. On est dans le rap, le hip-hop, et avec des groupes qui sont emblématiques là-bas, qui sont même des précurseurs puisqu'ils ont commencé à travailler et à se faire connaître à un moment où j'ai envie de te dire que c'était pas non plus le truc le plus en vogue et pas le plus facile à faire en coréen à l'époque, en tout cas, même s'il y a des gens qui avaient commencé avant eux. Je suis pas là pour vous faire un cours, donc je voulais vous parler, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite actu autour de ça, de deux albums qui viennent de sortir. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière et il y en a un qui est sorti cette semaine, et les groupes qui sont concernés, il y en a un, c'est un duo, c'est dans le titre, alors c'est pas dur, c'est Dynamic Duo, qui vient de sortir avant-hier un album qui s'appelle Off Duty. C'est un peu comme Digi-Shadow, hein. Ils ont sorti toute leur carnet d'adresses. C'est que des collabs, c'est souvent le cas en fait dans les albums de hip-hop coréen, mais là ils ont sorti vraiment les collabs qui sont à la mode en ce moment. Donc évidemment, comme je sais que vous ne connaissez pas forcément la scène coréenne, c'est rien que je vous déblatère tous les noms qu'ils ont sortis, mais il y a des mecs qui sont vraiment impressionnants et qui ont un univers musical qui à mon avis te plairait en fait, hein, si t'avais le temps en fait, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont assez hallucinants. Et Dynamic duo, pour vous situer un petit peu le calibre des gars, c'est les mecs qui ont commencé en fait la musique en 99 et le groupe s'est formé tel qu'il existe aujourd'hui. Le duo, ça, à la base, ils étaient plusieurs dans un groupe en 99 et c'est devenu Dynamic Duo en 2004. Et depuis 2004, en fait, ils ont créé leur propre label, ils ont fait leur, en 2006, qui s'appelle Amoeba, je sais pas comment on prononce, Amoeba Culture.
Amoeba.
Ouais. Et ben écoute, on va le prononcer Amoeba Culture.
On va encore se faire remonter les bretelles, mais c'est pas grave.
Ouais, mais par moins de monde. Et s'il y a des gens qui nous remontent les bretelles sur ce sujet-là sur le forum, moi je.
On les attend.
Ça me fait plaisir, vraiment. Y a pas de problème. Et ils ont signé des mecs qui sont assez, assez surprenants parce que plutôt jeunes, mais qui sont des putains de génies, j'ai envie de dire. Les deux plus connus en Corée actuellement sont un mec qui s'appelle Zion T et l'autre c'est Crush, qui fait vachement de R&B et qui a une voix assez hallucinante. Et ces mecs-là, donc, sont eux vraiment Dynamic Duo. C'est des mecs qui sont à l'origine de quelques-uns de mes titres préférés de la vie, tu vois. Tu vois la vie, tu vois mon amour de Prince et tout. Bah, je les mets à ce niveau-là sur certains morceaux, c'est pour te dire.
Ah oui, carrément.
Ah ouais, des trucs hyper groovy. Ils ont un sens du rythme de ouf. Ils collaborent extrêmement souvent aussi avec un mec qui s'appelle Primary, qui est un producteur qui chante pas vraiment, mais qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec plein d'artistes coréens, qui est assez hallucinant. Donc voilà, cet album est vraiment sympa et c'est surtout pour moi, c'est un des meilleurs albums qu'ils aient fait ces dernières années. Les releases qu'il y a eu récemment sont pas des trucs qui m'avaient un peu secoué. J'avais vraiment préféré ce qu'ils faisaient aux alentours des années 2010-2012 et là, on est vraiment revenu sur un truc qui me plaît beaucoup. Et du coup, pour vous faire découvrir une voix pas mal, je pense qu'on va vous passer un petit extrait d'un titre lent, calme, tu vois, histoire de se mettre. Je vais pas vous mettre un truc violent. Qui s'appelle Amy's Room et qui est chanté en fait il y a une collaboration évidemment avec un mec avec un nom imprononçable comme d'habitude. Hein, on est en Corée, et je n'ai pas pris de cours. Qui s'appelle Oyuk et qui a une voix mais hallucinante et qui fait des morceaux avec son groupe et en solo qui sont musicalement extrêmement intéressants. On va s'écouter ça tout de suite. Amy's Room, donc, avec Oyuk, avec sa voix hyper grave, si particulière. Et le deuxième truc est moins intéressant en termes d'album, parce que c'est assez inégal, mais c'est un groupe ultra emblématique, car complètement précurseur, pour le coup, en Corée, qui s'appelle MFBTY. Et le nom du groupe, en fait, l'acronyme, c'est « My fans are better than yours ». Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils ont fondé aussi leur propre label qui s'appelle Feel Good Music. Et en fait, c'est un label qui est fondé par un couple à la ville qui s'appelle... Donc, le monsieur s'appelle Tiger JK. Il a été dans un groupe qui s'appelle Drunken Tiger pendant très longtemps. Il a fait son dernier album fin 2018, si je dis pas de bêtises, avec eux. Il faudrait que je vérifie. Je vous dis peut-être une bêtise, mais c'est pas grave. Et il est marié avec une nana qui a une voix incroyable, qui est fille de GI américain et de... coréenne, qui s'appelle Yoon Mirae, que tout le monde appelle Tasha aussi, qui est son nom américain, entre guillemets, et qui collabore depuis des années avec un mec qui s'appelle Bidzi, qui est rappeur, qui a une carrière solo un peu plus compliquée. Je suis moins fan de ce qu'il fait en solo. Et tous les trois, en gros, ils sont pas hyper fan du monde de la télé et du monde de la musique mainstream coréen. Donc tu vois, ils ont eu dans les années 90, ils étaient dans d'autres agences, ils passaient à la télé, dans les festivals, etc. Maintenant, ils font beaucoup de trucs de leur côté depuis 2013. Ils galèrent un peu parce que tu vois, ils ont un peu découvert les réseaux sociaux, le marketing et tout ça. Il a fallu qu'ils fassent tout seul, donc ils ont un petit peu plongé en popularité, alors que très honnêtement, ils sont incroyables. Moi, c'est vraiment, même en termes de clips, les trucs qu'ils arrivent à sortir, c'est avec des budgets hyper limité, c'est assez impressionnant. Et là, ils ont ressorti un album et le titre phare de cet album, il est super, mais il a un problème. C'est que je vais vous faire écouter un extrait et je pense que malgré le riff de guitare que je vais essayer de vous caler pour l'extrait, vous allez reconnaître un truc. 3, 2, 1, 0. Dreamcatcher donc par MFBTY. Et donc si vous êtes un fan de Rage Against the Machine, je pense que vous allez reconnaître des sonorités. On va dire que l'originalité n'est pas forcément là. Alors, quand vous écoutez la globalité du titre avec le rap, etc., on n'est pas autant dans le cliché. Mais forcément, bon, alors moi, un, ça me plaît parce qu'évidemment, Rage Against the Machine, j'aime beaucoup. Mais c'est bon, regardez le clip, c'est rigolo. Il y a une forme d'hommage. Il y a une espèce de mec qui se balade avec un masque en carton-pâte de Michael Jackson sur la gueule. Le clip est assez barré, je vous préviens. Mais voilà, MFBTY, il faut connaître. Ils ont fait des trucs hyper intéressants et moi je vous conseille le dernier album de Drunken Tiger qui est même meilleur que celui-ci. Si vous voulez écouter du rap coréen, et j'avoue que le coréen se prête extrêmement bien au rap, même si vous êtes obligé de lire les paroles à côté. Et c'est vraiment une grosse claque et les mecs ont c'est très percutant comme langage et je pense que ça pourrait plaire à certains sur un malentendu. C'est pareil, hein, venez sur le forum m'insulter si c'est pas le cas ou si c'est le cas parce que du coup vous allez tomber dans un vortex de musique et vous allez voir il y a plein de trucs en fait.
Allez, après cette petite incursion coréenne, on passe du côté de la tech avec des news de nos amis d'AMD.
Ah là là, AMD, mais le retour mon gars,
ouais, c'est vrai, hein.
C'est n'importe quoi. Là on est dans le n'importe quoi. Alors, d'un côté on a les news de Intel n'arrive toujours pas à livrer ses processeurs et de l'autre côté on a AMD en mode genre si on vous vendait des nouveaux CPU hyper chers pour vos stations de travail et on dirait que ça serait bien. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est l'arrivée de l'AMD Ryzen Threadripper. J'adore ce nom, tu vois, ça fait très film gore. C'est les 3960X et 3970X des processeurs que vous n'aurez pas le budget de vous acheter, mais ce qui est important de savoir, c'est, enfin, je dis ça, mais vous avez peut-être l'argent et vous en avez peut-être le besoin, mais pour vous monter un PC de jeu, c'est pas la priorité. Mais c'est hyper intéressant parce que on est vraiment sur des technos qui sont à la hauteur des prédictions et des espoirs de beaucoup de gens. Donc, le premier est à 24 cœurs dans ton CPU que tu commences à parler, mais le deuxième en a carrément 32.
Ah oui.
Donc, on commence à être sur des machins assez violents et le tout en 7 nanomètres. Donc, ça veut dire que ça ne chauffe pas trop. Ça veut dire que ça tient les fréquences annoncées. Fréquences qui sont hyper intéressantes puisqu'on est quand même sur des trucs qui démarrent en version, quand tu les boostes pas, hein, sur 3 GHz. C'était les trucs d'avant, tu vois. On était sur les vieilles, les 2990, tout ça, c'était 3 GHz. En turbo, t'étais à 4.2. Là, sur les nouveaux, tu attaques à 3.7 ou 3.8 et tu termines en turbo à 4.5 GHz. Donc on est sur des trucs qui non seulement sont blindés de corps mais qui en plus moulinent assez vite. Alors je vais tout de suite calmer vos ardeurs et annoncer des tarifs parce qu'il faut parler brouzeau de temps en temps, c'est important. Le 3970 vous allégera de 2000$. Donc voilà, 1999. J'aime bien ce petit dollar en moins pour psychologiquement pas vous faire fuir, mais ça changera rien, votre cerveau est pas complètement stupide.
Bah avec toutes les économies qu'on va faire sur Steam, il y a peut-être moyen. Hein,
c'est ça. Et le deuxième ne vaut que 1399$. Je vous rappelle que tout ça, évidemment, c'est les prix hors taxes, etc., etc. Chez nous, je sais pas combien ça va taper, mais ça va taper. En revanche, si vous montez des stations de travail et que vous êtes des gens qui font de l'export vidéo, de la 3D, etc., le temps, c'est de l'argent. Et vu les performances de ces CPU en multicœur sur plusieurs threads, vous le rentabilisez assez vite. Il y a déjà des gens qui sont ultra contents avec le carnet de chèques à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument une nouvelle carte mère pour ces petits trucs.
Bah oui, forcément, oui.
Alors, ils avaient dit à AMD que ça serait compatible avec les anciennes cartes mères, mais il y a des choses qui ont changé au niveau des connecteurs, du CPU du coup c'est pas le cas et les nouvelles cartes mères coûtent super cher aussi. Je suis désolé, je crois que les plus basses sont autour de $600.
Oui, ça commence à faire cher la machine quand même. Quand tu rajoutes ta carte graphique travail. Et tout.
Voilà, on n'est pas sur Ryzen de machine de gamers.
C'est ça,
des
gamers.
On est sur le voilà, on est sur les professionals. Donc c'est très différent. Et vous allez voir que parce qu'on rigole toujours d'Apple et regardez, oh là là, le nouveau Mac Pro il coûte un bras et tout. Bah oui, mais quand tu mets du vrai matos dans une machine pour travailler et balancer de la 3D, etc. Les mecs sont pas là non plus pour pas marger, hein. C'est pas que pour faire joli. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les tests sont impressionnants, y compris sur un seul thread, qui est le truc qui intéresse les joueurs. Mais même si, franchement, si vous achetez ça pour jouer, vous avez trop d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites ce que vous voulez. Mais le test de Anantech que je vous link dans le billet qui accompagne le podcast est assez clair. Les performances sont d'une violence attendue mais inattendue, hein, mais qui nous fait bien plaisir et qui prouve que AMD est vraiment vraiment sur une dynamique assez hallucinante, ce qui prouve que là, bah, en 2020, si vous voulez vous remonter un PC de jeu pour Noël, hein, vous pouvez aller taper dans du Ryzen. Les performances sont là, et quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire au niveau pro, je me dis qu'ils ont encore des choses à nous montrer l'année prochaine. C'est une très 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 bonne nouvelle. Alors je vais pas vous détailler tout le reste parce que franchement le test fait voilà, c'est un test Anantech, hein, donc il y a un milliard de trucs à l'intérieur. Je suis juste moi super content de voir que les mecs vont chercher sans problème des machines qui sont normalement intouchables côté jeux vidéo, et c'était des trucs qui n'étaient pas possibles, si tu veux, il y a pas si longtemps. Donc bon, voilà, ils sont toujours un petit peu en dessous, tu vois, sur le single thread, sur certains jeux, mais dès que tu rentres dans ce que à quoi est fait ce CPU, c'est-à-dire travailler, bah là c'est un bain de sang, hein. Et Intel le vit pas très bien, je vous cache pas qu'en ce moment ils sont pas à la fête. Donc voilà, je vous laisse regarder avec votre banquier ce qu'il est capable de faire pour votre prochaine machine, mais en tout cas je suis hyper content de voir AMD revenir dans la bataille. Maintenant il nous manque un élément, il nous manque vraiment l'équivalent côté carte graphique pour aller embêter Nvidia et que l'équilibre des forces se soit rétabli. Mais comme on est sur des niveaux de performance assez hallucinants, je suis pas non plus persuadé que ça fasse bouger les prix énormément, puisque côté Nvidia et AMD, ils ont pas non plus d'intérêt à casser les prix sur, parce que voilà, les marges, c'est important les gars, hein, rappelez-vous, ils sont là pour l'argent.
Et c'est la fin de ce 111e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, nous, on va aller éviter les soldes Steam.
Oui, hein, on va essayer de vous trouver des jeux vidéo pour la semaine prochaine. On a parlé beaucoup de musique cette semaine. Ouais. Et d'ailleurs, dites-nous dans les coms ce que vous en pensez. Je suis désolé, il y a un truc, il y a des sites que je lis dans mes RSS qui finissent toutes leurs news, mais toutes leurs news. Dites-nous dans les commentaires ce que vous inspire cette news. Tu vois, c'est une macro, je pense. Et ça, c'est insupportable. Donc voilà, venez discuter avec nous, ça nous fait toujours plaisir.
Et puis n'hésitez pas à passer sur le Discord, et puis on vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous soutenir, nous aider à produire des podcasts, eh bien n'hésitez pas à passer et à venir verser votre dîme mensuelle. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, bon week-end, bonne semaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.